Soir. Et je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu sais que dans nos vies, parfois le poids, les craintes, les soucis nous accabrent et nous empêchent de faire confiance. Tu sais qu'elle et notre difficulté à regarder au-delà des réalités quotidiennes qui limitent et qui cernent notre horizon. Alors ce matin, en ce moment de prière, nous voulons déposer devant toi, dans le silence de notre cœur, tout ce qui nous pèse, qui nous inquiète, qui nous pose souci, ou simplement qui nous distrait, nous empêche de t'écouter, et de nous écouter les uns les autres. Voilà, nous voulons prendre quelques instants de silence pour déposer tout cela devant toi. Et notre Dieu, tu nous entends au plus profond de nous-mêmes, là nous n'avons pas besoin de trouver des mots pour te dire ce qui nous préoccupe. Accorde-nous par ton esprit une espérance qui l'emporte sans cesse sur nos lassitudes, nos découragements, qui nous délivre de notre souci de nous-mêmes, une espérance qui nous entraîne à vivre dans l'espérance et l'attente de ton royaume parmi nous. Amen. Chantons. Jésus dit encore, il en est du royaume des dieux comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé, bien formé dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Le royaume de Dieu n'est pas une autre montagne qu'il te faut escalader. Le royaume de Dieu n'est pas une soudaine explosion qui renverse tout. Le royaume de Dieu n'est pas une révolution qui change le régime politique. Le royaume de Dieu est une petite graine plantée dans l'humus de notre terre. La semence est en toi. Laisse-la germer, grandir, s'épanouir. Le royaume est cette grâce inscrite dans le creux de ta vie. Il est cette parole qui te dit qu'au-delà de tes révoltes, tes rechutes, de tes refus, des oublis, tu es aimé de Dieu. Que cette parole s'enracine en toi, dans tes jours et dans tes nuits, dans tes veilles et dans ton sommeil, dans tes rêves et dans ta vie. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance.
J'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien.
Je vous prie de vous rasseoir. Nous offrons maintenant, pour le service de l'Église, nos dons, pour qu'elle puisse continuer à rendre ce service, d'être ce lieu d'annonce de l'Évangile. C'est le moment de l'offrande. À notre tour d'entrer dans la musique avec le prochain chant. Toi qui dispose, c'est le numéro 4208. Voilà, et les musiciens, comme d'habitude, nous introduiront ce cantique.
Oh,
rasseoir. C'est le moment maintenant d'entrer en fait dans la découverte de ce récit qui est un peu au centre de notre culte aujourd'hui, que nous avons donc travaillé depuis le mois de janvier en groupe de catéchumènes, et qui va nous être d'ailleurs lu par deux d'entre eux, que j'inviterai dans quelques instants de venir me rejoindre ici. Mais avant cela, vous invitez à un moment de prière, comme toujours, quand nous ouvrons la Bible, avant d'ouvrir la Bible, pour que ces paroles de la Bible deviennent pour nous paroles de Dieu, paroles de vie. Seigneur, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole, et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de ma vie sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de mon existence et la lampe de mes pas. Amen. Voilà donc Paul et Nathan, vous pouvez vous mettre déjà ici, vous installer avec les textes. Et nous avons donc, je dis depuis le mois de janvier, donc on a un peu d'avance sur vous, on connaît déjà le récit, on a déjà travaillé, puis, voilà, de plein de manières différentes. Et puis une des manières de pouvoir s'approcher de ce texte ou le rencontrer, c'était à l'écoute du texte. À l'écoute du récit que nous allons entendre, quel est le verset, quel est le mot, quelle est l'image peut-être aussi que vous retiendrez? Qu'est-ce qui vous parlerait davantage dans ce texte, dans ce récit? Ou bien, quel est le personnage peut-être, il y en a plusieurs, le personnage duquel vous vous sentez le plus proche? Voilà, donc si vous pouvez, en écoutant ce texte, faire un peu cet exercice en vous-même. Et les catéchumènes tout à l'heure vous présentez un peu leur travail par rapport à ça. Mais tout d'abord, le texte, et je laisse donc la parole à Nathan et à Paul. Vous avez un micro ici, voilà, et vous pouvez enlever vos masques, tout à fait, ce sera là où vous êtes, tout à fait possible.
Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jaïrus. Il voit Jésus, il se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de lui, de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent. Mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur, parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ta maladie. »
Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jaïrus et ils disent à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jaïrus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses trois disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit « Talita cum », cela veut dire « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés, mais Jésus leur demande avec force « Ne dites rien à personne ». Ensuite, il leur dit « Donnez-lui quelque chose à manger ».
Merci. Vous pouvez reprendre place. Et peut-être que nous avons quelques notes de musique pour permettre de continuer l'écoute intérieure. Voilà, je ne sais pas quel est le mot, le verset, l'image que vous avez retenu à l'écoute. Les catéchumènes ont retenu des personnages et ils ont essayé de raconter ce récit du point de vue de ces différents personnages. Donc il y a Jaïros, le chef de la synagogue, il y a la femme qui n'a pas de nom, et la petite fille qui non plus n'a pas de nom, et puis il y a Jésus lui-même. Alors, les quatre personnages, je vous invite à venir ici maintenant, comme tout à l'heure Nathan et Paul, avec vos textes que vous avez donc écrits vous-même, voilà, qui vous raconte, qui nous raconte comment ce récit aurait pu se vivre du point de vue de ces personnages. Donc, c'est Jaïros qui commence.
Je vois ma fille sur un lit. Elle a l'air inanimée. J'ai peur.
Plus fort. Pour aller de...
voilà. Je vois ma fille sur un lit. Elle a l'air inanimée. J'ai peur. Je remarque une foule au bord du lac. Je vois Jésus. Je me jette à ses pieds. Je le supplie de venir guérir ma fille. Et il accepte. Et je le conduis jusqu'à chez moi. En arrivant chez moi, j'apprends que ma fille est morte. On m'a dit que c'est trop tard et qu'il ne faut plus déranger le maître. Malgré ces paroles, Jésus me rassure et affirme que ma fille dort seulement. Personne ne le croit. Jésus fait sortir tout le monde, sauf moi, ma femme et ses trois disciples. Nous rejoignons ma fille. Jésus a pris sa main et lui dit de se lever. Aussitôt, elle se lève et se met à marcher. Nous sommes très étonnés. Jésus nous demande de ne rien dire à personne et de donner à manger à ma fille.
Après, c'est la femme inconnu qui parle.
Je m'appelle Myriam et je suis malade depuis 12 ans. J'ai expérimenté tous les médecins de la région. J'ai perdu tout mon argent et je souffre encore. Aujourd'hui, Jésus est de passage dans ma vie et j'ai pris la décision de l'approcher pour lui toucher ses vêtements. C'est mon dernier espoir de guérir. Je me suis faufilé dans la foule et quand j'ai touché ses vêtements, Mon sang s'est arrêté de couler et j'ai compris que j'étais guéri. Jésus s'est alors tourné vers la foule et a demandé « Qui a touché mes vêtements ?» Je tremble de peur et me jette à ses pieds. Je lui dis toute la vérité. Jésus me répond « Va en paix et sois guéri de ta maladie. » Je me sens soulagé, rassuré, heureuse. Une seconde vie commençait alors pour moi.
Voilà, après la femme, c'est la petite fille qui parle.
Récit selon la petite fille. Que m'est-il arrivé? Après des années de souffrance, je peux enfin marcher. Je me suis réveillée dans ma chambre, entourée de mes parents et de quatre inconnus. Je me sens bien, mais tout est confus dans mon esprit. J'ai faim, comme s'il entendait mes pensées. L'un des inconnus demanda à ce que l'on m'apporte à manger.
Et puis à la fin, c'est Jésus lui-même qui parle.
Alors ici, selon Jésus, « Quand je reviens en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de moi. L'un des chefs de la maison, Jaïrus, vient vers moi, se jette à mes pieds et me supplie de poser mes mains sur la tête de sa petite fille mourante pour la guérir. Je le suis donc, mais la foule se resserre autour de moi. Soudain, je sens un frôlement et une force sort de mon être. Je regarde la foule et demande qui m'a touché. Mais mes disciples n'ont rien vu. Alors, je scrute la foule du regard et je la vois enfin, qui vient de se jeter à mes pieds, tremblante de peur. C'est une femme malade depuis 12 ans qui avait frôlé mes vêtements et qui vient de guérir. Je me tourne donc vers elle et lui dis « Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ta maladie. » Pendant que je raconte cela, des gens arrivent de la maison de Jaïrus et disent à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » À ces mots, je me tourne vers Jaïrus et lui dis « N'aie pas peur, crois seulement. » Quand j'arrive vers la maison de Jaïrus, je vois des gens pleurer. « Pourquoi pleure-t-il alors que la petite fille dort seulement ?» Il rit de moi. Alors je les fais sortir et prends avec moi Jaïrus et sa femme, ainsi que mes trois disciples. Je m'approche de la petite fille et lui prends la main avant de dire « Talitha cum, petite fille, je te le dis, lève-toi. »
Merci, vous pouvez donc reprendre place. Voilà, je ne sais pas si vous aurez écrit pareil, si vous êtes mis dans le personnage, dans ces quatre personnages de ce récit. J'ai demandé à Pierre-Adrien un témoignage, parce qu'en fait, pourquoi on a lu ce texte, c'est en fait Pierre-Adrien qui l'a proposé, et pour une raison particulière, parce que c'est un récit, j'ai cru comprendre, qui lui parle depuis bien longtemps déjà, qui l'accompagne aussi depuis bien longtemps, et je pense que ça pourrait être bien s'il pouvait nous partager qu'est-ce que lui, il retient dans ce récit et qu'est-ce qui est important pour lui, et puis dans la suite peut-être aussi de ce que il vient d'entendre de la part des catholiques. Donc, Pierre-Adrien, si tu veux bien venir nous rejoindre ici.
Exercice difficile que le témoignage, qui n'est pas une prédication. Je ne sais pas faire, donc on va voir. Vous venez d'entendre le témoignage des personnages de ce texte, ceux qui ont eu le privilège d'approcher Jésus, de toucher son vêtement, de le presser au cœur d'une foule compacte, et on aurait pu s'arrêter là, ça m'aurait bien arrangé, sauf que 2000 ans plus tard, me voici, moi, Pierre-Adrien, devant ce texte, et voici que je suis touché. Touché par cette histoire, touché par la foi de cet homme et de cette femme, touché par les paroles de Jésus, ne crains pas, crois seulement. Il n'y a pas si longtemps, ça fait seulement, mais quand même déjà 13 ans, j'étais à votre place. Je recevais ma Bible à la rentrée du catéchisme. C'était pas ici, c'était dans le temple du Vigan. Et puis, j'étais un peu comme vous, Margaret, Apolline, Victor. J'étais un peu dans l'église, mais enfin, quand même pas trop. Et je mentirais si je disais que ce jour est gravé dans ma mémoire. Je m'en souviens absolument pas. Mais je connais par cœur, en revanche, les mots que les monitrices m'avaient écrits sur la première page de cette Bible en français courant, à la tranche bleue, et sur une couverture, il y avait un escalier. L'Église réformée de France t'offre ce livre qui a été vécu avant d'avoir été écrit, et écrit pour être vécu. Je me souviens pas de ce jour, parce qu'il m'avait pas paru important. Je ne savais pas encore que 13 ans plus tard, je serais à cette place. Ce livre, qui a été vécu avant d'être écrit, et écrit pour être vécu, je peux vous assurer qu'il a vécu. C'est certainement le livre le plus usagé de ma bibliothèque. D'ailleurs, je ne le lis même plus tellement il est dans un mauvais état. La tranche tient miraculeusement grâce à du scotch. Les pages en papier bible sont toutes froissées et le ruban marque-page s'effiloche très sérieusement. Vous l'aurez compris, cette Bible, je m'en suis servi et je l'ai même lue. Et c'est déjà extraordinaire. Parce que j'aurais pu faire comme ceux qui l'ont reçu le même jour que moi, du moins je crois, la laisser bien tranquille dans un coin, ou pire, l'oublier à jamais dans la salle du caté après une séance bien barbante. Et comme je l'ai lu, je suis tombé par hasard sur ce récit. Et comme tant d'autres, il m'a plu, il m'a touché, il m'a marqué. Je crois que l'on a tous un ou des versets bibliques fétiches que l'on garde pour soi dans les meilleurs et dans les pires moments. Le mien, ou plutôt l'un des miens, il est ici. Ne crains pas, crois seulement. Qu'est-ce qui me touche dans ce texte? Qu'est-ce qui me touche dans ce verset? Pourquoi lui, pas un autre? Bien d'abord, parce que ce récit, il est humain. Deux situations terribles, deux existences en danger, deux cœurs brisés. La vie dans toute sa vérité. La vraie vie qui est toujours bousculée. Celle qui ne se passe jamais comme prévu. Celle qui vous laisse briser, amer, malheureux, dégoûté. Deux individus qui souffrent au plus profond d'eux-mêmes et qui appellent à l'aide. L'un d'eux est un croyant inébranlable. C'est du moins l'image qu'il doit avoir dans cette bourgade où il fait partie du conseil presbytéral, si on voulait actualiser. Un croyant très sûr, un homme de foi, et c'est pour ça, je pense, qu'il se présente face à Jésus. Il n'a pas l'air de douter. On voudrait lui ressembler, avoir ce courage, cette force, cette conviction que Jésus peut résoudre la situation dramatique. L'autre individu, c'est une femme. Elle ne doit pas être du tout bien vue dans son village. Bon, d'abord, c'est une femme, à cette époque, grave handicap, et en plus, elle est impure, car elle a des pertes de sang. Un personnage en marge, rejeté, inutile, qui n'a aucun avenir. Et elle a tellement intégré en elle-même qu'elle n'est pas un individu comme il faut, qu'elle n'ose même pas aborder Jésus. Elle vient par derrière, comme un voleur, en douce, en scred, comme vous dites les jeunes. Elle ne demande rien, elle touche. Deux individus, deux regards de la société sur eux, deux miracles et surtout deux paroles de la part de Jésus. À celle qui est venue par derrière, celle qui semblait perdue, qui ne devait pas dire d'elle-même qu'elle avait une foi à transporter les montagnes, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Et à celui qui était une figure de la synagogue, à celui qui portait la foi de sa communauté, Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement. » Voilà une première bonne nouvelle pour moi. Il n'y a pas de bons ou de mauvais croyants. Il n'y a pas de personne plus juste que d'autres. Il y a seulement des individus en quête. Des hommes et des femmes qui vont à Jésus, qui vont à Dieu par différents chemins. Il y a ceux qui l'abordent à vue, en face, publiquement. Il y a ceux qui vont à lui par derrière, par des biais détournés, discrètement. Peu importe. Ce que me dit ce texte, c'est que qui que nous soyons, et de n'importe quelle façon nous l'abordons, Jésus s'intéresse à nous et nous accorde la grâce d'une libération. Chère Apolline, Victor et Margaret, et vous toutes et tous, jeunesse de notre Église, soyez assurés que c'est par votre chemin que Jésus vient à votre rencontre. Quelle que soit votre manière de l'aborder, soyez sans crainte, il vous écoute et il vous libère. Il y a autre chose que je voulais partager avec vous, chers jeunes, chers catéchumènes. Il y a 13 ans, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas grand-chose de la vie. J'étais un enfant tout à fait normal, un peu bête d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis pas beaucoup bien sûr d'en savoir beaucoup plus sur la vie, mais enfin quand même, j'ai fait quelques expériences. Vous allez vivre, ou peut-être vous êtes en train de vivre, l'adolescence. Bon courage. Elles sont nombreuses, les questions que vous allez vous poser sur vous-même, sur vos parents, sur le monde, sur l'avenir, sur l'écologie maintenant, moi j'y pensais guère, sur tous les aspects de votre vie, même les plus intimes, et surtout les plus intimes, et même sur Dieu, et sur la foi. Sur cette dernière question, il y a tant de réponses. Certaines sont dans notre texte. Peut-être serez-vous amené à vous identifier à ceux qui disent « À quoi bon ?» À quoi bon déranger Jésus ? La situation est bien désespérée. La petite fille est morte, plus la peine d'importuner le maître. Ou plus généralement, le mal ne semble pas disparaître de ce monde. Il y a autant de miséreux, d'enfants qui meurent de faim et de bombes qui sautent d'un pays à l'autre. J'ai souvent été dans ce cas. Où est Dieu face au malheur ? Où est Dieu alors que moi je vais si mal ? Eh bien aujourd'hui, je peux répondre qu'il est dans cette phrase « Ne crains pas, crois seulement ». Face à la mort de nombreux êtres qui m'étaient très chers, face à des remarques blessantes, face au désespoir, face au doute, une phrase a toujours résonné dans ma tête. « Ne crains pas, crois seulement ». Ne te prends pas la tête, laisse faire. Prends du recul, lâche prise et fais de la place. Fais de la place à ce Dieu qui, paraît-il, est un Dieu d'amour. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si j'ai une foi à transporter les montagnes. Je ne sais pas si j'accepterai de vivre 15 ans aux galères ou d'être enfermé 40 ans à la tour de Constance. Juste pour ma foi. Je n'ai pas la force de mes ancêtres. Ce que je sais et ce que je voulais vous partager, c'est que dans la vie, je ne m'en fais pas. Que j'ai confiance et que même dans les malheurs, on reçoit des bénédictions. Alors, chère Apolline, Victor et Margaret, vous commencez aujourd'hui votre compagnonnage avec un livre, la Bible. Ce n'est pas rien. Elle a été vécue avant d'être écrite et écrite pour être vécue. Ne craignez rien, lisez seulement.
Merci bien, Adrien. Vous pouvez applaudir, bien sûr. J'avais demandé à Adrien un petit témoignage. Et voilà, j'ai plus rien à rajouter, quoi. Tu as tout dit. Voilà, tu me prives de parole, là, en fait. Tu as tout, voilà. Non, je rigole. Donc, du coup, juste un peu de musique. Et puis, pendant cela, je vous projette quelques extraits du récit qui ont été retenus dans notre travail. Merci. Nous allons confesser notre foi ensemble en chantant, tout simplement. C'est le chant, un des nouveaux chants que nous allons, connaître au cours de ce culte, qui n'est pas dans notre recueil de chants, mais qui va s'afficher là. Nous pouvons nous lever. Je crois et je l'espère, la grâce d'un Père, celui qui bénit, entre dans ma vie. Donc, les musiciens vont nous introduire le chant de façon à qu'on puisse le chanter après. Hein, donc, peut-être chanter. Voilà, très bien, je vous laisse faire. D'un Père, celui qui bénit, entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement périlé vivant. Crois et j'espère, Jésus, Rasseoir et je demande aux parents de Victor, Apolline et Margaret de venir s'approcher avec eux, donc Margaret, Apolline et Victor également. Voilà. Voilà, donc on a déjà appris en entendant Pierre-Adrien l'importance de ce livre, de la Bible. Qu'est-ce que ça peut être pour nous, comme livre à découvrir? Donc, j'ai retenu ce que tu disais. Voilà, avant d'avoir été écrit, il a été vécu. Et il a été écrit pour être vécu, pour nous rencontrer là, dans notre vie, dans laquelle nous sommes. Et les parents ont peut-être aussi un mot à dire par rapport à ça. Et, voilà, ce moment-là, cette remise de Bible, comment ça leur parle aussi par rapport à leurs enfants. Donc, je vois Karina, la maman de Victor, qui, voilà, je leur ai demandé un texte, quelque chose, une parole à dire. Et voilà, je vous invite à le faire. Il y a le micro.
Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour assister à la remise de la Bible de Victor. Victor, tu ne le réalises peut-être pas en ce jour, comme Pierre-Andrien il y a 13 ans. Mais c'est une chance pour toi d'être ici, au sein de cette communauté bienveillante, pour recevoir ce cadeau précieux. Personnellement, je n'ai pas eu cette chance. Toute mon enfance, j'ai senti que quelque chose me manquait, quelque chose d'impalpable, difficile à exprimer, que Pierre-Adrien a d'ailleurs très bien exprimé. Un guide, une sorte de décodeur pour comprendre le monde, un socle et un sentiment d'appartenance. Alors, j'ai fini par avoir une Bible, car je l'ai demandé à mes parents à l'adolescence. Avec David, mon mari, nous avons donc choisi de baptiser nos enfants et de leur donner la chance de découvrir Dieu et le message de Jésus. Victor, je suis certaine que tu comprendras l'importance de ce symbole au fil du temps, et j'espère que cette Bible sera pour toi toujours un repère, un guide et un réconfort.
Merci Karina, merci pour vos paroles. Nous continuons avec Hélène, la maman donc de Margaret.
Ma chère Margaret, aujourd'hui, donc le jour où tu vas recevoir ta Bible, c'est un moment qui est important chez les protestants parce qu'il témoigne de la centralité de la Bible dans la foi d'un chrétien. La parole de la Bible, elle ne vient pas directement de Dieu, mais elle témoigne de la rencontre que leurs auteurs ont fait avec Dieu. Et nous, chrétiens, croyons que ces textes, qui ont été mis par écrit il y a très longtemps, continuent de nous parler, de nous toucher personnellement et nous permettent de rencontrer quelque chose qui nous dépasse, qui est insaisissable, qui est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, mais qui pourtant est là, existe et donne le sens de notre vie, Dieu. Et cette rencontre à travers les textes de la Bible est personnelle. Elle est particulière pour toi, en fonction de qui tu es, en fonction de la façon dont tu regardes le monde, comme elle est particulière pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous différents. Pour te donner un exemple, parce que c'est probablement un peu abstrait ce que je viens de dire, je voudrais te parler d'un petit livre que j'ai lu il y a 10 ans et qui concernait le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, et plus précisément Moïse. Tu sais, l'homme que Dieu a choisi pour libérer le peuple hébreu de son oppression en Égypte. On a souvent la tête pleine d'images d'un Moïse qui est grand, fort, musclé, avec une barbe. En quelque sorte, le chef idéal qui saura convaincre les Hébreux d'écouter la parole de Dieu que Moïse leur transmettra, pour quitter l'Égypte et rejoindre la terre promise. Bref, un héros. En réalité, la Bible ne dit pas exactement ça. La Bible dit que Moïse est un criminel, il a tué un Égyptien et il est en fuite. Moïse ne sait pas vraiment qui il est, il sait probablement qu'il n'est pas Égyptien, mais il ne connaît pas ses parents. Et surtout, lorsqu'au buisson ardent, il rencontre Dieu, qui lui demande de retourner en Égypte pour en faire sortir les Hébreux, il ne se sent pas capable d'assurer la mission que Dieu veut lui confier. Après avoir donné plusieurs raisons qui n'ont pas convaincu Dieu, Moïse finit par aborder la raison qui a probablement le plus d'importance pour lui. Et il dit à Dieu : « Je ne suis pas doué pour la parole, et cela depuis longtemps, car ma bouche et ma langue sont pesantes. » On se demande ce que ça peut bien vouloir dire, « ma bouche et ma langue sont pesantes ». Certains disent que cela veut dire que Moïse bégayait. Alors, Dieu choisirait pour parler aux Hébreux quelqu'un qui a justement beaucoup de mal à s'exprimer? C'est dingue. Voilà une parole qui m'a profondément touchée. Moïse est vulnérable, Moïse est fragile. Et Dieu lui répond à peu près, « T'inquiète Moïse, on va gérer. Ton frère Aaron sera avec toi, tu mettras les mots dans sa bouche et il parlera pour toi. » Et Moïse à ce moment dit, « Ok Dieu, j'y vais. » Dieu est celui qui nous met en route et qui nous demande de lui faire confiance, malgré toutes nos fragilités. Si nous sentons appelés à faire quelque chose, et nous sommes tous appelés à faire quelque chose de notre vie, à être vivants, sans sentir totalement incapables, n'est pas aux yeux de Dieu une raison suffisante pour ne pas répondre à cet appel. Voilà, Margaret, une parole qui m'a touchée, qui m'a parlé, et je te souhaite de recevoir beaucoup de paroles touchantes à travers la lecture de la Bible.
Merci beaucoup, Hélène, aussi. Et puis, dernière, maman et parents de Apolline.
Alors, Apolline, nous aussi, on est très fiers aujourd'hui d'être là, pour t'accompagner dans cette remise de Bible. Et en fait, ça nous a rappelé, surtout à moi, j'avoue, pas mal de souvenirs, parce que c'est plutôt une tradition chez nous, pour le coup. Ta grand-mère, ta marraine, moi-même, j'ai eu deux, trois livres qui finalement, tu vois, ont servi de repères, de choses un peu concrètes par rapport à cette existence de Dieu où on se dit que c'est un peu abstrait et pas forcément très, très facile à percevoir. Et du coup, j'ai été un peu puisée dans ma bibliothèque. Je crois qu'elle est pas, elles sont pas aussi abîmées que celles de Pierre-Adrien, mais n'empêche qu'elles ont un petit peu quand même vécu. Et alors, il y a la première, c'est celle que j'ai reçue, alors il y a pas 13 ans, mais il y a 30 ans, pour aussi le début de mon catéchisme. Elle m'a l'air un peu moins sympa que la tienne, j'avoue, hein, parce que la The Bible, elle m'a l'air plutôt pas mal. Moi, c'était une version, tu vois, un petit peu plus classique. Mais elle est là, et tu vois, elle a un petit peu été salie, elle a été un petit peu cornée. Parce que j'ai quand même dû chercher quand même, à deux, trois moments de ma vie, des petits versets, des choses qui m'ont parlé. Mais ça s'est pas arrêté là. Quand j'ai eu fini mon caté, j'ai eu des explications plus concrètes. Le dictionnaire culturel de la Bible. Et tu vois, ça date à la fin de mon caté, le jour de ma confirmation. Et après, avec ton papa, on a reçu encore une autre. On a reçu une Bible le jour de notre mariage, aussi d'une autre paroisse. Donc, il y a eu les paroisses de Strasbourg, les paroisses Rode de Strasbourg, les paroisses de Besançon, et aujourd'hui, la paroisse de Bois-Colombes, qui t'accueille et qui est là aujourd'hui avec nous pour te dire voilà que cette Bible, on pense qu'elle va te servir dans ton chemin. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu flou, que tu vas pas trop savoir quoi en faire, mais que c'est un repère, que c'est un jalon et que c'est quelque chose d'assez concret que tu peux aller regarder, que tu peux aller lire, que tu peux aller feuilleter, que tu peux oublier, que tu peux retrouver, mais qu'en tout cas, tu vois, qu'il est là le long de ton chemin, aujourd'hui, plus tard, à ton mariage, au baptême de tes enfants, et donc ça va être un chemin et un accompagnement pour toi. Et voilà ce qu'on a envie de te proposer avec ce livre aujourd'hui en tant que parent. Voilà.
Merci beaucoup pour vos trois paroles. On peut aussi les applaudir, je trouve. Et j'ai même envie de vous demander, est-ce que vous nous confiez vos textes? Est-ce que vous nous permettez de que puissions nous aussi le recevoir en quelque sorte, ce que je trouve très beau, parce que votre témoignage. On pourra, voilà, je pense que peut-être même les publier aussi dans ensemble ou je sais pas, voilà. Donc si vous êtes d'accord, hein, voilà, ça serait super. Alors, je vous demande de rester encore quelques instants, parce que c'est le moment de la remise de la Bible, et je demande aussi aux catéchètes de venir s'approcher, de se mettre derrière la table de communion, et bien sûr des catéchumènes aussi qui vont remettre la Bible, pareil, vous venez aussi également, donc derrière. Voilà, nous avons, donc vous allez recevoir cette Bible, The Bible, effectivement, donc une Bible qui a été, il y a quelques années déjà, par l'Alliance biblique, pensée, puis ensuite fabriquée. Alors, la traduction, c'est en français courant, donc la traduction, c'est une traduction, je peux dire, classique en français, mais la forme de cette Bible, d'abord, elle est grande, elle est un peu lourde aussi, hein, je veux dire, bon, c'est vrai que pour la transporter comme ça, dans sa poche, c'est un peu difficile. L'emmener à chaque fois au caté aussi, c'est un peu compliqué. En revanche, il y a peut-être une Bible qui peut rester près de chez vous, dans votre chambre, dans votre qui vous permet d'entrer de multiples manières dans cette Bible, ou la lire dès le début, comme ça, comme un livre, ou bien il y a des entrées thématiques aussi autour des thèmes qui sont les thèmes de la vie de chacun, importants sur la vie en communauté, sur la vie en famille, sur la vie l'accueil de l'étranger. Ben, il y a plein de différentes entrées. Voilà. J'en dis pas plus. Vous allez pouvoir le découvrir vous-même. Elle est accompagnée, cette Bible pour vous aujourd'hui, d'une petite carte avec un verset biblique qui est pour vous aujourd'hui, qui est signé par les pasteurs, par les catéchètes et aussi même par les aînés des catéchumènes qui vous la remettront. Donc, je vais d'abord vous demander de les signer. Et puis ensuite, alors, pour la remise de la Bible, donc vous êtes plusieurs à remettre. Donc voilà, je vais vous confier la première Bible. Et vous la remettrez. La première, ça serait Apolline. Vous pouvez bien venir par ici. Voilà. Donc, mettez-vous juste là devant, comme ça, voilà, de façon à ce qu'on puisse voir, on puisse vous voir aussi. Tiens, tu viens aussi d'abord avec ton frère. Voilà, donc, c'est cette carte qui va avec, que tu peux donc lire à haute voix. Alors, où est-ce que le micro? S'il vous plaît, le micro. Et c'est toujours mieux d'enlever le masque pour lire, parce qu'on comprend mieux, et te parler assez fort, Gaëtan, comme tu peux. Hein? Alors, d'abord, le verset qui est sur le dos, le verset biblique, s'il te plaît, voilà.
Joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens.
Voilà, et donc après, le texte qui est derrière, voilà.
Chère Apolline, reçois ce verset biblique comme une parole de bénédiction pour toi aujourd'hui, qu'elle t'accompagne et te porte sur le chemin de ta vie. Partage-la avec celles et ceux que tu y rencontres.
Voilà, avec la signature des pasteurs, des catéchètes, et donc la Bible. Voilà, pour Apolline. Ensuite, Margaret. Tu vas remettre la Bible à Margaret. Venez, tiens, je te laisse ça. Et ça, voilà. Ça va aller? Attends, je prends le micro à l'instant pour que tu puisses enlever ton masque pour parler.
Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu est fidèle à ses promesses. Hébreux, chapitre 10, verset 1. Chère Margaret, reçois ce verset biblique comme une parole de bénédiction pour toi aujourd'hui. Qu'elle t'accompagne et te porte sur le chemin de ta vie. Partage-la avec celles et ceux que tu y rencontres.
Merci. Voilà, tu remets à Margaret et puis Victor. Victor, qui remet la Bible à Victor? Enlève ton masque avant, voilà. Tiens.
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5. Cher Victor, reçois ce verset biblique comme une parole de bénédiction pour toi aujourd'hui. Qu'elle t'accompagne et te porte sur le chemin de ta vie. Partage-la avec celles et ceux que tu y rencontres.
Merci. Et donc, voilà. Merci, merci à vous d'avoir participé. Donc voilà, cette Bible, nous allons pouvoir maintenant chanter tous ensemble. Vous allez pouvoir gagner vos places. Et on dit déjà au revoir à Victor parce que je sais qu'il y a une compétition qui se prépare. Il doit s'éclipser avant la fin du culte. Bon vent et bon match, hein, Victor. Et au revoir au prochain caté. Et nous allons pouvoir chanter ensemble. Rien ne pourra nous séparer de l'amour donné. À nouveau chant aussi.
Rien ne pourra jamais de l'amour donné. Rien ne pourra jamais de l'amour.
Encore une fois, le refrain, s'il vous plaît.
Rien ne pourra jamais séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais oublier de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude. Rien ne pourra jamais séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais libérer de la liberté.
Et de vous rasseoir. Et j'invite les catéchètes à venir me rejoindre pour la prière d'intercession. La prière d'intercession que nous allons conclure ensemble avec la prière du Notre Père.
Cette prière d'intercession a été écrite par les catéchumènes hier à la séance de catéchisme. Seigneur, merci de nous donner la santé et de nous donner la possibilité d'être présents ici, aujourd'hui, tant au centre 72 que par Zoom. Nous te prions de rééquilibrer les denrées et les richesses entre les humains. Prends soin de ceux qui n'ont rien et de ceux qui ont peu de choses. Aide ceux qui sont dans le besoin. Aide les malades, Seigneur. Aide-nous à surmonter cette maladie du Covid et à en sortir et à éviter un troisième confinement. Merci, Seigneur. Seigneur, fais que la guerre et les violences s'arrêtent dans le monde. Donne-nous la force d'être un artisan de paix autour de nous. Donne-nous la force d'être un protecteur de l'environnement et pour que la terre ne devienne pas une bombe à retardement inaltérable. Nous t'en prions, Seigneur. Amen.
Et nous pouvons joindre nos propres prières, nos propres demandes et aussi nos propres sujets de remerciement, de reconnaissance dans cette prière qui nous est commune à tous les chrétiens que le Christ a laissé à ses disciples, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, j'ai le moment maintenant des annonces. Il y en a un certain nombre que j'ai mis par écrit, donc juste pour le rappel que mardi prochain, c'est une prochaine étape dans notre traversée du christianisme, donc le livre que nous ayons ensemble par Zoom, en fait, et qui réunit donc les paroissiens de Pois-Colombes et de Courbevoie, Et le chapitre que nous allons lire ensemble ce mardi est autour de la mort de Jésus et le sacrifice. Qu'est-ce que ça signifie concrètement aussi? Voilà, bien sûr, c'est toujours ouvert à tous. On peut s'y connecter aussi comme ça, histoire un peu de suivre peut-être aussi ce qui se dit, se partage à ce niveau-là. Donc, c'est par Zoom. Si vous souhaitez y participer, il suffit de le signaler et je vous envoie le lien Zoom. Vous l'avez d'ailleurs dans l'épître, je pense que dans l'épître que vous recevez, toutes les semaines, vous avez aussi ce lien Zoom pour vous connecter. Mercredi 10 mars, également par Zoom, une prochaine mini-conférence de carême avec Jane Strands, la pasteur de Courbevoie, donc aussi un cheminement que nous faisons ensemble avec nos amis de la paroisse de Courbevoie. Et là, Jane nous introduit au cours de l'eau. Voilà, là aussi, le lien se trouve dans l'épître, le lien Zoom, pour vous connecter. Donc, c'est à 20h30. J'ai fait un grand saut jusqu'à samedi, qui est la veille d'un culte un peu particulier, donc un culte répétition pour le culte du lendemain, le culte artistique avec crescendo. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot par rapport à ça? Éventuellement, c'est l'occasion de... Voilà, je regarde Claire parce qu'elle est un peu impliquée là-dedans, particulièrement. Merci. Hein.
Oui, donc bonjour, le grand jour approche de ce fameux culte crescendo, culte artistique. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est un culte comme les autres, sauf qu'il y aura un petit peu plus de musique et vraiment une place donnée à l'art, même en général. Il y a une dizaine de paroissiens qui se sont impliqués dans la préparation de ce culte. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif et on se réjouit beaucoup. On vous attend nombreux, on espère qu'on ne sera pas trop nombreux. Voilà, en même temps, venez. Si c'est vraiment, ça va être un chouette moment. J'ai pas grand-chose à dire de plus parce que j'ai pas envie de spoiler le culte. En tout cas, le thème, c'est « renouveau » au pluriel. Voilà.
Super, merci Claire. Donc, culte artistique, c'est pas seulement de la musique, c'est aussi, par exemple, l'art floral. Hein, donc, c'est l'occasion pour moi de remercier en votre nom aussi Zato qui nous apporte, pas tous les dimanches, mais quand elle fait tout ça, c'est ses créations de l'Ikebana. C'est vraiment, et donc ça aussi, vous allez pouvoir le découvrir un peu plus à l'occasion de ce culte dans une semaine, de ce culte artistique. Voilà. Ensuite, les dimanches qui suivent au mois de mars sont encore des dimanches de culte particuliers avec des assemblées générales d'abord de l'église le 21 mars. Donc c'est un petit culte pas très long, mais c'est un vrai culte quand même, suivi de l'assemblée générale et puis l'assemblée générale de l'entraide le dimanche d'après. Ah oui, 9h30, je n'ai pas donné les horaires, mais c'est aussi... Allez, je laisse.
Voilà, pour participer au culte dimanche prochain, vous avez aussi des feuilles à remplir à la sortie pour vous inscrire par rapport au droit à l'image, parce que ce culte sera filmé et directement visionnable sur YouTube, en direct. Donc pas par Zoom, mais sur YouTube. Et vous aurez le lien, on vous enverra le lien en avance. Mais c'est important, et notamment pour les enfants aussi, il y a une feuille particulière. Merci.
Voilà, ça nous rappelle le culte télévisé du mois d'octobre. C'est pas tout à fait ça, mais c'est Crescendo, donc c'est une association qui est une cinéma international qui a un peu comme but de prémouvoir ces cultes artistiques. Alors, je vois Rouve qui me fait signe aussi. Rouve, tu veux t'approcher parce que je pense qu'il s'agit là aussi d'une annonce que j'ai pas mis ici, mais que tu vas pouvoir relater à travers Alpha.
Bonjour à tous, je me permets d'intervenir par rapport au parcours Alpha. Il a commencé samedi, donc hier, en ligne, en Zoom, mais bien sûr, il n'est pas du tout trop tard pour le rejoindre. Et je pense notamment à vous tous et les enfants, enfin les jeunes et les parents. Il y a eu de très beaux témoignages des parents, un témoignage de Père Adrien. Sachez que par la suite, sans faire trop de teasing, il y aura des témoignages de Pierre Adrien, si vous voulez en retrouver encore. Donc il y a une grosse attente, hein. Attention. Et puis des sujets, je vous dis pas, mais... Donc, et d'autres orateurs. Il y a aussi des vidéos. Donc, pour vous expliquer un peu, c'est 10h30 midi le samedi. Surtout, on ne dépasse pas, c'est vraiment 1h30. Il y a un petit exposé, qui est plutôt un témoignage, soit par un orateur, comme ça, soit par une vidéo. La semaine prochaine, c'est encore une vidéo. Mais bientôt, ce sera de vrais orateurs. Et après, c'est des petits groupes, en fait, où on réfléchit, on discute sur des questions de spiritualité. On voit un peu le regard chrétien. Et je pense à ces témoignages qui parlaient de ce qu'on peut avoir un vide ou peut-être... Le thème hier, c'était le sens de la vie. Il y avait de très beaux témoignages sur les gens qui disent, voilà, on court, on veut des augmentations. On veut des promotions, on est impec en tant que père ou mère de famille, dans la famille, on a des relations, on court après tout ça, et après en fait, et avant, enfin, quel sens a tout ça? Et donc il y a ce regard de la foi chrétienne qui peut être très intéressant. Donc il y a ces jeunes qui s'engagent, qui ont reçu cette Bible, mais c'est à tout âge qu'on peut être rencontré par cette foi. Donc vraiment, je vous invite à venir. Et si vous connaissez d'autres gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas surtout. Et pour ça, vous avez les prospectus derrière. Il faut s'inscrire en fait à parcoursalphabc@gmail.com. Et vous avez aussi l'invitation et une petite vidéo de présentation dans les épîtres envoyées par nos pasteurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Rouve. Je regarde Denis. Non, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a pas d'autres annonces à faire au niveau de l'Église, à moins que Sophie. Non plus. Eh bien, nous allons continuer les annonces avec nos trois autres associations. Qui veut prendre la parole là pour l'un des deux, des trois? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des annonces à faire pour l'entraide, par exemple? Voilà. Je vois Hélène qui est là. Voilà. Je crois qu'il y a une braderie à annoncer, par exemple.
Merci, Andreas. Bonjour à tous et à toutes, à chacune et à chacun. Donc oui, j'ai besoin de vous rappeler que nous avons régulièrement des braderies et là, c'est le mois où nous avons une braderie. Donc vendredi 19 et samedi 20 mars, les braderies, c'est l'occasion d'acheter tout ce dont a besoin une famille à des prix très bas, mais il y a aussi des livres très intéressants, des jeux, il y a bien sûr aussi des vêtements. C'est aussi l'occasion de se rencontrer et d'avoir un temps de convivialité entre les personnes qui viennent et les personnes qui vous accueillent dans les différents stands. Donc vendredi et samedi prochain. Et ceci, c'est possible grâce au tri qu'offrent les bénévoles de tous les vêtements qui sont reçus. Alors là, on en a reçu tellement qu'on a été obligé de dire pas, on ne reçoit pas pour le moment, mais ça reprendra le lundi qui suit la braderie. Donc reprise des dépôts de vêtements et de tout le bric-à-brac et autres objets qui sont donnés à partir du lundi 22. Et voilà pour la braderie et les dépôts de vêtements. La boutique se pose des questions et envisage de voilà d'ouvrir un peu plus parce que il y a une forte demande aussi. Donc la boutique Au Bonheur de Tous, qui est au 118 rue de Colombes, un peu plus bas dans la rue, eh bien cette boutique envisage même d'ouvrir le lundi. On va faire une expérience, donc le lundi de 14h à 17h, pour que justement ce soit encore plus ouvert, la boutique étant le prolongement d'une braderie. Et bien sûr, comme l'a déjà annoncé Andreas, eh bien nous aurons l'Assemblée Générale de l'Entraide le dimanche 28 mars à partir de 9h30. Ça commencera par un culte et après nous aurons l'Assemblée Générale.
Merci Hélène. Maison des jeunes, il n'y a personne. Je sais qu'il y a les Louveteaux qui se réunissent, par exemple. Donc des groupes se réunissent. Hier, on a partagé les locaux avec les Louveteaux. Le 172 ne peut pas vraiment faire ses activités habituelles, mais essaye de maintenir quand même ses projections, ses projets. Il y a des affiches aussi dans le hall qui vous permettent de voir ce qui est prévu. Je vous invite maintenant à l'offrande pour l'entraide. Thank you. Je vous invite à vous lever pour accueillir une parole d'envoi et de bénédiction. Seigneur, permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Au nom de ce Fils de lumière, né parmi nous pour qu'il fasse clair dans nos vies, notre frère, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Que sa lumière se lève dans nos ténèbres, que notre nuit soit comme le plein midi, que le Seigneur nous guide sans cesse. Il nous donne sa paix, aller dans sa joie et dans son amour. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dimanche et bonne semaine à venir à vous et au plaisir de vous revoir.